Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin sur Radio B90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire. Et en ce mois de novembre, l'amoureux des lettres vous propose, vous invite à lire des romans, des études prodigieuses qui mettent à l'honneur la vie des femmes, oui, j'ai bien dit, la vie des femmes, telles que « Geste de femme » de Sophie Coste, « La poète aux mains noires » de Ingrid Klovaki, « Le secret de leur vie » de Paul de Cinetti, qui est une folle histoire d'amour de Delphine et de Elzéar, Mirage de l'art contemporain de Christine Sourgin, une grande adepte de l'art, de la grand art. Ça sera à la fin de cette émission. Et pour célébrer le millénaire de la cathédrale de Chartres, oui, ça fait 1000 ans qu'elle a été bâtie, qu'elle existe, deux livres majeurs. Malraux devant le Christ, oui, vous serez étonné de cet essai, cette étude minutieuse, Malraux devant le Christ, et puis la cathédrale de J.K. Huysmans. Il s'agit bien de la cathédrale, et tous deux ont remarqué Notre-Dame de Souterre dans la crypte de la cathédrale. Un espace de prière, Notre-Dame de Souterre. Voilà pour le sommaire de cette très belle émission. Et je commence donc par « Geste de femme » de Sophie Coste, édité par Philippe Rey, avec une très belle et juste préface de Philippe Delerme, qui dit que ce livre qu'il a lu avec intérêt, ce livre est le plus bel hommage à la langue française que j'ai jamais lu. Voilà. C'est vrai que Sophie Coste est agrégée de lettres modernes. Elle vit à Lyon, où elle anime des ateliers d'écriture. Elle est critique littéraire et elle a co-dirigé l'ouvrage Ponge, Francis Ponge, et ses lecteurs, édité par Kimé. Ce qui explique qu'elle le connaît si bien et pourquoi elle le cite plusieurs fois dans cet ouvrage. C'est bien un ouvrage « Geste de femme ». Car il s'agit bien d'un ouvrage qui, à partir de mots-clés, met en scène la vie des femmes depuis la préhistoire, oui, la préhistoire jusqu'à nos jours. Et ces mots sont filés, on peut filer plein de choses, la laine, le fil, mais aussi l'eau, voilà. Tisser, aussi, le tissage a été très important, tisser. Coudre, balayer, laver, raccommoder, quand les choses sont défaites, on peut les raccommoder. Cueillir, ça c'est aussi une des premières idées de cueillir. Porter un enfant, nourrir cet enfant et soigner cet enfant, eh bien, tous ces gestes-là sont des gestes qui appartiennent aux femmes. Des travaux accomplis pendant des siècles dans l'espace domestique qui ont rythmé le quotidien des femmes. Si peu célébrés, face aux activités dites viriles, on parle plus de la chasse, chasser, faire la guerre, soulever de lourdes masses, ça c'est le travail des hommes, Alors, c'est vrai qu'on ne parle plus de ce travail-là, mais ça n'empêche que les gestes intimes des femmes sont peut-être devenus invisibles et dévalués, mais ils sont d'une évidence nécessaire. C'est ce qui a permis aux gens de survivre, de vivre, de survivre et de venir jusqu'à nous. Dans cet ouvrage passionnant, Sophie Coste tente de rendre compte de leur profondeur, la profondeur de ces mots. Parce qu'ils apparaissent comme ça, mais quand on travaille sur ces mots, on découvre plein de choses. Et c'est ce que Sophie Coste fait avec nous. On découvre plein de choses. En revenant aux images qu'elle convoque et à l'épaisseur des mots, eh bien, c'est à la source même de la vie qu'elle aborde, qu'elle devient. C'est à la source de la vie même qu'elle puise pour nous ravir, parce qu'on est ravis. Son approche originale mêle la poésie à la réflexion et ouvre un chemin de découverte à la croisée des souvenirs personnels, les siens, qu'elle partage, et puis de nos représentations du travail féminin. Avec fluidité et bonheur, l'autrice invite au temps long, renouant le fil d'une histoire trop souvent méconnue, mais qui traverse aujourd'hui encore notre manière d'être au monde et de l'envisager. Il y a bien dans ce livre « Gestes de femmes » quelque chose d'inimitable dans le ton, en accord profond avec la substance de ce qui est dit. Voilà pourquoi c'est un livre, un texte, un livre, un ouvrage à lire absolument. Alors, quelques exemples. Un exemple que je vous donne, tiré d'une note, le murmure de Francis Ponge. À partir du mot « raccommoder », en analysant ce mot-là, on arrive au mot « réparation ». Et alors, Francis Ponge, parle de l'artiste. Dans l'artiste, cette mission de l'artiste, dans un monde en ruine, il faut réparer, oui, la fonction de l'artiste est ainsi fort claire. Il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation. Voilà, du mot réparer, on est arrivé à celui de réparation. Réparation par l'artiste de quelque chose, réparation, le monde, prendre en réparation le monde qui nous entoure, il a besoin d'être réparé ce monde, et par fragments, il lui vient, non pour autant qu'il te tienne pour un mage, mais seulement un horloger, voilà. Un réparateur attentif, irremplaçable dans sa fonction. Son rôle est modeste, on le voit, mais l'on ne saurait s'en passer. Vous verrez que dans ce livre, il y a plein de mots comme ça, les mots que je vous ai cités, qui sont analysés, défendus depuis leur origine latine et qui deviennent d'autres choses. Voilà donc un très beau livre, un très bel ouvrage, « Gestes de femmes » de Sophie Coste, aux éditions Philippe Ray. Vous verrez que vous allez prendre vraiment un très très grand plaisir de lecture. Ensuite, je passe à un autre grand livre aussi, qui fait un peu suite à ce geste de femme. Ça s'appelle « La poète aux mains noires ». Et c'est de Ingrid Klovaki, édité par L'Arpenteur. L'Arpenteur, qui fait quelques bons livres, L'Arpenteur. Ici, dans ce roman, on parle de Marie Talbot. Elle a bien existé, Marie Talbot. Une femme paysanne, bâtarde. Bon, sa mère travaillait pour celui qui est le propriétaire, qui est devenu son père. Et puis après, il va l'épouser. Mais elle est bâtarde de naissance. Est devenue grâce à son père, voilà, parce que son père était un grand sculpteur. Elle va devenir, à l'égal de son père, chose stupéfiante, sculpteur. Et on a retrouvé certaines de ses œuvres, donc on peut affirmer que c'est l'une des plus grandes artistes du XIXe siècle, donc deux siècles en arrière, dont on découvre seulement aujourd'hui le grand talent. Et sa matière, c'est le grès. Le grès, une argile particulière utilisée par les potiers du Berry. Oui, ce sont les hommes qui sont les potiers du Berry. Et son père était un célèbre potier du Berry. C'est une terre, le grès, c'est une terre qu'on peut travailler quand il est encore malable. Mais c'est une terre qui, à la cuisson, devient dure comme la pierre. Elle est même rebelle à toute coloration, donc c'est bien avant qu'il faut la travailler. Elle est brute et elle est éternelle. C'est une pierre, le grès est une pierre qui devient à la cuisson éternelle. Et Marie Talbot va inscrire dans cette matière sauvage ses idéaux, ses blessures, parce que c'est une jeune femme qui a été mariée sans amour, car elle ne peut rester célibataire en ce 19e siècle, même si, chose étonnante, elle fait un travail d'homme, comme son père, dont je le redis, est un artiste incomparable. Donc elle sera vraiment à très bonne école. Et puis ses combats, parce que elle va devoir combattre. De ce mariage, elle aura un fils qui est tout pour elle, qui est sa raison de vivre. Mais au moment où il doit aller à l'école en apprentissage, eh ben on va lui retirer la garde de ce fils. Donc elle a son travail passionnant qui apporte justement de l'argent au foyer, parce qu'elle vend bien ses œuvres. Mais elle est malheureuse de ne pas avoir son fils. Alors, elle va lui écrire de nombreuses lettres, mais pas de réponse à ces lettres. À la fin, eh bien, on découvre que le mari n'envoyait pas ses lettres. Voilà, donc beaucoup de souffrances, de douleurs, de combats. Et elle choisit de représenter les femmes, toutes les femmes, parce qu'elle en a rencontré une, mais toutes les femmes, d'inscrire dans la durée leur lutte, leur souffrance. Je vous ai parlé de ces souffrances et leurs espoirs aussi, parce qu'elle aurait bien voulu divorcer de son mari. Mais dans ce 19e siècle, dans les campagnes, le Berry, ben, ça ne se fait pas, le divorce n'est pas accepté. Alors, comme on parle du Berry, elle est dans le haut du Berry, mais l'autrice, bien à propos, imagine une rencontre décisive entre Marie Talbot et une qui existait bien à cette époque, qui était peut-être un peu plus âgée qu'elle, qui s'appelle, au sud du Berry, qui s'appelle George Sand. Voilà. Oui, le poète aux mains noires, la poète aux mains noires, c'est elle, Marie Talbot. Ce roman lui donne enfin une voix et un visage, parce que par la suite, on a eu tendance à l'oublier, même si on a retrouvé des figurines qu'elle a fait, extraordinaires qu'elle a fait. Et pour George Sand, l'autrice a imaginé, et c'est pas si bête que ça, puisque quand on visite George Sand, sa maison, on découvre que Maurice, son fils, avait un théâtre, tout un théâtre, et même un théâtre de marionnettes. Et pourquoi pas demander à Marie Talbot, de réaliser quelques-unes de ses marionnettes pour son fils. Voilà, ce que Marie Talbot, bien sûr, a accepté avec plaisir. Donc, j'ai dit que dans ce livre, il y a beaucoup de choses, une vie riche, mais aussi beaucoup de souffrances, mais elle va quand même retrouver son fils, mais qui va mourir à la guerre. Voilà, Marie Talbot, donc la poète aux mains noires de Ingrid Klovaki, publié par L'Arpenteur, ici encore un grand roman à lire. Et puis j'arrive à un troisième livre, Le secret de leur vie, de Paul de Cinetti, qui vient de paraître au Cerf. Sous le titre, un sous-titre, La folle histoire d'amour de Saint Elzéar et la bienheureuse Delphine. Et il y a bien un secret entre Saint Elzéar et la bienheureuse Delphine, car ils se sont jurés le soir de leur noces, le 5 février 1300, de vivre pauvres et chastes, à l'insu de tous. Oui, une petite voix avait dit à Delphine qu'elle pouvait accepter cette union tout en restant vierge. Oui, parce que, à cette époque-là, comme dans des époques ultérieures, on ne choisit pas, on vous marie entre des familles, des grandes familles. Ce roman, donc, est un grand roman historique, ce livre, avec une foule de personnages historiques, replacés magistralement dans ce contexte épique, très épique, avec Elzéar de Sabran, et Delphine de Cygne, qui vont se marier, qui vivront dorénavant dans l'émerveillement, parce qu'ils vont vraiment s'aimer, et la célébration de leur passion amoureuse, tout en restant chaste. Mais auprès d'eux, les voyous deviennent bons, les pingres généreux, les cours royales se convertissent et rivalisent d'œuvres pies. Leur couple rayonne de grâce, même la politique s'en trouve métamorphosée. Miracle, oui. Elle est donc possible, cette expérience irradiante de l'amour radical qui change le monde. Alors on navigue dans toute la Provence, qui est très riche et divisée même à cette époque-là. On va à Naples et jusqu'en Sicile. C'est l'époque aussi de la première peste noire. Et on peut dire que cette histoire, le secret de leur vie de Paul de Cinéti, qui vient de paraître aux Serres, est l'une des plus belles histoires d'amour qui n'avait jamais été contée. Donc, ceci, il faut le lire aussi. Elzéar est un grand capitaine cavalier qui va lutter avec succès, mais il va renoncer à cette gloire humaine, parce qu'il se tourne vers Dieu, vers le Christ. Après, il va vivre une vie de pauvreté et d'amour, un peu comme Saint François d'Assise, vous savez, qui était chevalier, mais qui a tout abandonné, qui s'est même déshabillé tout nu pour rendre à son père tout ce que son père lui avait donné, pour devenir un pauvre, jusqu'à sa mort. Et sur sa tombe, il y aura bien une guérison. Voilà pourquoi Elzéar sera sanctifié. Il deviendra Saint Elzéar. Et puis Delphine, devenue veuve, mais toujours et encore portée par leur amour, va continuer leur œuvre. Donc c'est un vraiment très beau roman aussi, qui n'a jamais été conté. Je n'ai pas pu, c'est un roman historique, parce que Paul de Cinéti cite une foule de personnages qui ont réellement existé dans leur contexte, à ces différents endroits, je l'ai dit, en Provence, à Naples et puis en Sicile. Donc c'est une foule de personnages que vous allez retrouver bien vivant dans ce livre, ce roman, Le secret de leur vie de Paul de Cinéti, qui vient de paraître aux Serres. Et on va écouter une musique de Ludwig von Beethoven, l'andante de la sonate numéro 13, jouée par Maria João Pires. Thank you. N'est-ce pas, hein, que c'est beau comme musique, hein? C'est très beau même, hein? Avec la grande Maria João Pires, que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Alors, j'aborde d'autres ouvrages, certains étonnants, comme le premier, le quatrième, c'est Malraux devant le Christ. C'est de François de Saint-Cheron, et c'est aux éditions des Clés de Prouveur. Dans sa jeunesse, François de Saint-Cheron a eu le bonheur de rencontrer André Malraux, en vrai, grâce à la femme de celui-ci, qui était amie avec sa famille. Depuis cette rencontre décisive, il a lu toute l'œuvre considérable de André Malraux. Ce qui veut dire qu'il n'invente pas cette étude, ce paradoxe, car André Malraux était bien un agnostique revendiqué, mais ce qui ne veut pas dire qu'il était athée. Agnostique revendiqué jusqu'à la fin. Pourtant, sans le christianiser de force, cet auteur, François de Saint-Cheron, montre que son itinéraire à André Malraux fut marqué par une quête ardente, sinon de Dieu, du moins d'une forme de transcendance. Le mystère aussi. Formé par le christianisme, l'auteur de ces grands romans que sont La condition humaine et L'espoir témoignait à l'égard du mystère évangélique d'une singulière proximité. Incomparable, André Malraux était un incomparable exégète de l'art sacré. On l'a bien vu dans deux grands livres, Le monde chrétien et Le surnaturel, deux ouvrages. Malraux était fasciné par le Christ, par Saint Jean l'évangéliste et Saint François d'Assise. Voilà, on reparle aussi dans ce livre de Saint François d'Assise, qui était un exemple frappant. Et en suivant un fil chronologique, je dis bien chronologique, François de Saint-Cheron présente avec finesse dans ce livre, nourri de sources inédites ou méconnues, l'attitude de Malraux face au Christ. Voilà pourquoi elle a choisi ce titre, Malraux face au Christ et au christianisme. Il procède à une relecture précise. Voilà pourquoi il faut lire ce texte, Malraux devant le Christ de François de Saint-Cheron, parce que on refait une relecture précise de son œuvre et de sa correspondance, et à l'évocation aussi de certaines de ses amitiés avec de grandes figures catholiques tels que François Mauriac, oui, le grand François Mauriac, Georges Bernanos, José Bergamin ou encore le père Pierre Bocquel, cité plusieurs fois. Il y a aussi dans ce livre des illustrations. En particulier, on voit le Christ d'Assis, qui était de Germaine Richier, la grande sculptrice Germaine Richier. On voit aussi à Autun le Christ du jugement dernier, qui a été réalisé en 1130-1135. L'atelier Rénan, il a remarqué le dévot Christ de Perpignan, c'est bien l'auteur Perpignan, réalisé en 1307. Et de Rembrandt, il appréciait Rembrandt, la pièce au sang florin, faite en 1649, et les pèlerins d'Emmaüs, qu'on connaît encore mieux, en 1648. Oui, cette cathédrale de Chartres occupait vraiment une place dans le cœur de André Malraux. Et je parle d'un autre livre qui est la cathédrale, et qui est bien cette cathédrale aussi, de Chartres, par J.K. Huysmans, en folio, qui existe en folio classique, mais c'est le texte intégral qui se trouve donc en folio classique, donc vous pouvez le lire, édition de Dominique Millet-Gérard. Ce livre, ça c'est Huysmans qui le dit dans une lettre à Jules Huret du 1er janvier 1895. Ce livre est un guide pour les gens épris d'art et qui, laissant de côté les manies bondieusardes et les dévotionnettes catholiques de ce temps, le 19e siècle, voudrait se rendre compte de ce qu'il reste de magnifique dans l'Église, dans la grande Église. Alors, au début de ce roman, c'est un roman, nous sommes à Noël en 1893. Et J.K. Huysmans découvre la cathédrale de Chartres. Et pour lui, c'est un éblouissement. Et il va, dans ce livre, retranscrit son expérience dans ce livre. Ce texte est foisonnant, à la fois roman d'apprentissage, ouvrage d'érudition et livre d'art, oui, avec de très belles illustrations significatives de Charles Jouas. Je vous en donnerai quelques exemples à la suite. Pour lui, la cathédrale reproduit dans son corps de pierre, on parle d'un corps de pierre, les merveilles de la nature et offre un concentré de leur signification. Elle est une encyclopédie, oui, on peut le dire, parce qu'il parle de tant de choses. Une encyclopédie de l'histoire sainte et de la création entière. Huysmans rappelle ici l'ampleur universelle de la culture chrétienne. Vous voyez bien qu'il faut la préserver, la conserver, cette culture chrétienne. En réunissant l'art et la foi et l'intelligence, la beauté et la vérité. Il fait de la cathédrale monument, un immense poème en prose. C'est, dit-il, un roman d'âme. Alors, les trésors de cette cathédrale, remarqués en particulier par Huysmans, mais que vous pouvez encore voir aujourd'hui, 1000 ans après, dans la cathédrale de Chartres, parce qu'elles ont été ou restaurées ou préservées. Donc, il y a Notre-Dame du Pilier, très élégante. Il y a Notre-Dame de la Belle Verrière, vitrail du XIIe siècle. Le glorieux, le Christ glorieux du tympan de la porte centrale, intitulé le portail royal. Donc, à la porte centrale, on voit le Christ glorieux. L'Annonciation, toujours ce portail royal avec la porte de la Vierge, la Nativité de Marie, qui est une clôture du cœur, elle est magnifique, cette clôture du cœur, et il y a bien une représentation de la Nativité de Marie, la crypte de la cathédrale avec Notre-Dame de sous terre, Donc il y a une cérémonie qui est présentée dans cette crypte de la cathédrale. La cathédrale vue de la place Marceau, pour bien montrer les deux flèches, les statues du portail royal, les reines surtout, parce qu'il y a les rois et les reines, mais les reines sont toutes différentes les unes des autres, habillées différemment. L'adoration et le songe des rois mages, qu'il avait remarqué, et la dormition de la Sainte Vierge. La dormition, c'est un nom qui existe bien, qui fait partie du patrimoine catholique et aussi oriental, parce que on savait avant l'Assomption de la Sainte Vierge que son corps parfait ne pouvait pas être comme nous, comme le nôtre, rendu en cendres, en poussière. Donc il y a bien une... Elle s'est endormie avant de s'élever dans le ciel, dormition, au tympan son porte centrale, au porche nord, il y a un porche nord et un porche sud. Ainsi que le couronnement de la Vierge, et même sur ce même tympan. Donc on parle bien de femmes, des reines, mais aussi donc de Notre-Dame. Notre-Dame, dans ce grand livre, même en format poche, hein, un folio classique, donc le texte est intégral, je l'ai dit. Voilà. Alors, après ces deux livres, je reviens à un livre critique sur l'art contemporain. Les mirages de l'art contemporain, c'est de Christine Sourgin. Oui, une critique, ce livre est une critique minutieuse de ce qu'on appelle l'art contemporain. Et dans le même ouvrage, même, il y a une brève histoire de l'art financier, et c'est aux éditions Erol, à 9,90 euros, donc c'est vraiment pas très cher. Christine Sourgin est une grande historienne de l'art, ayant œuvré dans plusieurs musées, dont le Louvre. Donc, elle est très bien placée pour nous parler de l'art. L'art nous permet, dit-elle, de sortir de nous-mêmes. Grâce à l'art, nous allons au-delà de la routine et des vicissitudes de la vie quotidienne, nous dit cette grande historienne de l'art. Mais ici, elle se penche sur les mirages de l'art contemporain. Parce que l'art dit contemporain, détrônant l'art moderne à coups de surenchère provocatrice, émerge dans les années 1960. D'abord marginal, il est devenu officiel, mondial et financier. Qu'il se veuille critique, didactique, ludique ou libertaire, il n'a cependant pas tardé à se révéler manipulateur. C'est le grand mot, manipulateur. De stratégie en faux semblant, où l'on pratique allègrement ce que l'on dénonce, le pouvoir de ces mirages est dévoilé dans ce livre. Avec érudition et ironie, par Christine Sourgin. À ceux qui sont perdus dans ce labyrinthe, car il s'agit bien d'un labyrinthe de concepts et de discours, elle offre un fil d'Ariane en montrant de manière implacable comment une telle entreprise, quels que soient ses prétextes esthétiques, politiques ou moraux, attaque en fait l'humanité même de l'homme. C'est vraiment très grave ce qui se passe. En conclusion, parce que je ne peux pas, c'est une étude minutieuse, je ne peux pas tout vous dire, toutes ces analyses, mais en conclusion, avec Christine Surgin, nous pouvons dire que puisque l'art contemporain fait l'économie de l'oppression physique pour s'en prendre directement à la personne, à l'être, au fort intérieur, car lassé, elle l'appelle lassé, l'art contemporain, est tissé de nous-mêmes. C'est sa force. Il se nourrit de nos complexes, comme la peur de vieillir, nos renoncements. Il exploite les bonnes volontés inconscientes des enjeux véritables. Car la subversion, voilà le mot fort, la subversion n'opère que si elle reste inaperçue. Prenons l'art contemporain, là c'est au mot, puisque l'art c'est la vie, hein, on dit que l'art c'est la vie. Nous sommes tous concernés et tous les vivants, nous sommes vivants, sont compétents pour en juger. Le remède contre ce totalitarisme, c'est bien un totalitarisme en creux, pourrait alors être extrêmement simple. D'abord, de prendre conscience de sa stratégie. Ensuite, exercer une volonté personnelle de résistance. Il faut résister. À l'exemple de Solzhenitsyn, le grand Solzhenitsyn, préconisant que chacun se dise, c'est, voilà, le mensonge, disait Solzhenitsyn, le mensonge ne passera pas par moi, voilà. Et donc, refuser d'être le comparse, refuser d'être le comparse de cet art qui n'en finit plus d'être contemporain. C'est vraiment tout le contraire avec l'art contemporain. Il y avait une phrase que je voulais citer, c'est parce que c'était tiré de... Je croyais l'avoir noté quelque part. Voilà. Une citation de George Orwell dans son roman 1984, où il dit « La condition mentale, donc de l'art, hein, la condition mentale dominante, doit être la folie dirigée, voilà. Donc il faut changer, donc l'art contemporain, donc vous voulez changer les conditions mentales et dominantes, subversion dominante doit être la folie dirigée. La folie dirigée, on parle de folie dirigée. Voilà ce que je voulais pour conclure. Je voulais aussi vous dire un petit scoop, justement, parce que je viens de recevoir le dernier regard de Marie Morel, sa revue d'art, où elle parle de Jérôme de Lépine. Elle présente Jérôme de Lépine. Et là, vraiment, c'est du grand art. On voit une barque sur l'eau, le soleil, des nuages, la brume, l'eau est différente du ciel. C'est vraiment d'un romantisme moderne extraordinaire. Il y a d'autres tableaux aussi qui sont présentés, le sol, les arbres, voilà, dans cette petite revue. Est vraiment de la brume, un personnage qui se sur un sentier, un chemin avec les arbres, la brume. C'est vraiment de toute beauté, ce qui veut dire que aujourd'hui, les artistes sont capables de faire des choses encore très très belles en peinture, voilà, le chemin, des portraits même, et puis un nu qui est de toute beauté. On voit une femme marcher, voilà, triomphante, l'arbre sous la lune. Donc, c'est pour vous dire que l'art et le portrait, un autoportrait en 2020, l'art aujourd'hui se fait encore au-delà de ce que prétendent les gens de l'art contemporain. Voilà. Et je m'arrête là-dessus. Donc, vous pouvez commander ce regard à Marie Morel, de Place de l'Église, le petit hébergement, mariemorel.regard@gmail.com. Voilà, pour ce petit livre qui est prodigieux. Voilà. Et à bientôt, alors, en décembre.